Bonjour, Monsieur Carl Bélanger.
Bonjour, Daniel.
Est-ce qu'on pourrait parler de la saga de Larina Robert-Gartin?
Ouais, écoute, c'est tout un roman savant hein, qu'on regarde, où on en parlait hier. Tous les niveaux politiques sont impliqués, ou à peu près. Encore une fois ce matin, plusieurs articles dans le journal Le Droit, c'est vraiment ce qui monopolise l'attention de l'actualité, actualité sportive de la région, actualité politique de la région, et par la force des choses, ça nous amène à nous interroger sur les priorités qu'on peut avoir des fois quand on regarde l'ensemble des événements qui entourent la crise sanitaire, à quel point essentiellement les Olympiques de Gatineau sont importants pour la région. Les gens prennent ça à cœur malgré tout ce qui s'est passé au cours des dernières années.
Oui, il faut dire aussi qu'il y a deux volets. Il y a le volet sportif, mais il y a le volet sécuritaire. Il y a des parents qui suivent peut-être pas nécessairement le hockey, mais qui ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour les étudiants. Alors, tout ça ensemble, il y a plusieurs volets. Probablement, ça explique ce qu'on doit vivre actuellement.
Il y a plusieurs volets, effectivement, Daniel. Et quand on voit les images hein, qui ont été récoltés par le 104.7, qui ont été mis par nos amis de la salle de nouvelles sur les réseaux sociaux, d'aiguilles souillées, détritus un peu partout. On comprend l'inquiétude des parents et on comprend aussi pourquoi à chaque fois qu'il y a une proposition, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Ottawa, on a vécu le même phénomène avec le centre de l'armée du salut dans le secteur Vanier. Pourquoi il y a ce fort sentiment de pas dans ma cour? Parce que les gens ont peur des dommages collatéraux qui viennent avec l'arrivée d'une population importante de sans-abri qui sont aux prises avec de multiples problèmes de toxicomanie, mais en même temps, on peut pas les mettre dans un quartier industriel. Là. Les gens qui pensent ça oublient que ça prend autour des ressources, une capacité de servir la population et que les mettre au fin fond d'un parc industriel ou dans un champ quelque part, ça peut pas fonctionner.
Mais je sais pas, c'est sur la rue Murray à Ottawa, il y a une place où on passe, je pense, c'est l'église qui est sur le coin. Lorsqu'on passe là, c'est assez visible, là, et on veut pas se mettre dans la peau de ces gens-là, mais il faut y penser aussi. Alors, c'est sûr que c'est assez particulier.
C'est visible, et tant mieux que ce soit visible, qu'on soit au courant de cette réalité, sensibiliser, qu'on voit la misère directement dans notre face, parce que lorsqu'on vit notre quotidien, et surtout présentement là en période, on est toujours en période de confinement ou de semi-confinement, les gens travaillent encore de la maison, on ne voit pas cette réalité-là, donc on l'oublie, on a nos propres problèmes, et sans en diminuer l'importance, il y a toujours une catégorie de gens qui l'ont pire que nous dans la vie. Dans le cas de Gatineau, quand on voit le débat politique et on a entendu le maire de Gatineau, on a entendu plusieurs conseillers municipaux, on se lance la balle de part et d'autre, on s'en sert comme munition politique. On voit, il y a le ministre Lacombe là qui va être avec nous tout à l'heure. C'est quand même fascinant de voir ça, de regarder que ce qui retient le plus l'attention dans le cas des sans-abri, ce n'est pas leur situation, leur vulnérabilité.
Non, il n'y a rien, personne n'est contre eux, là. On le dit souvent. C'est pas le but, là.
C'est pas le but. Mais quand même, ce qui retient l'attention, c'est l'avenir d'une équipe de hockey et non pas les solutions pour les sortir de la misère, pour leur donner les ressources nécessaires pour mettre un peu de baume sur leur plaie.
En tout cas, le président de la compagnie Brigil, qui semble être un sauveur actuellement, là, la société immobilière gatinoise, qui semble avoir une bonne solution. On va voir ce que ça va donner d'ici les prochains jours.
Espérons que le CISO sera satisfait de ce cette solution offerte par Brigil, le bâtiment sur la rue Montcalm, là, 30 000 pieds carrés, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que c'est aménagé de manière adéquate pour qu'on puisse offrir les services à ces sans-abri? Je lève mon chapeau à Monsieur Gilles Desjardins. Il n'était pas obligé de faire ça.
Oui, puis disons que, écoute, moi j'ai resté surpris, disons que je ne suis pas un gars qui est très manuel, mais lorsqu'il dit qu'ils sont capables de faire 20 douches en une semaine, ça veut dire qu'il est ouvert quand même à l'ajustement pour bien accueillir ces gens-là.
Bien, très ouvert, et c'est un et ça permet peut-être un compromis qui verrait les Olympiques, à tout le moins, sans commencer nécessairement la saison à Robert Gertin, à tout le moins jouer des parties dès le début de l'année 2021. Donc, on trouve une solution. Est-ce que cette solution-là, est-ce que ce compromis-là, est-ce que cette offre de Gilles Desjardins aurait pu être faite si les lignes de communication avaient été ouvertes avant, si on avait discuté avec les différents acteurs avant de prendre la décision et de l'annoncer publiquement que pour les Olympiques de Gatineau, c'était terminé pour cette année, pour la saison qui s'en vient à Robert Gertin? Je pense que oui.
Est-ce que d'après toi, la période des vacances a eu un impact à ce niveau-là? Peut-être à cause de ça, si on n'était pas en période de vacances, là, peut-être que ça aurait été comme tu dis.
Oui, c'est sûr que les vacances jouent, d'une part. C'est sûr aussi que parmi la liste des priorités, lorsqu'on gère une crise sanitaire, lorsqu'on a des cas de COVID, lorsqu'on doit gérer tous les différents milieux dans lesquels il risque d'avoir des éclosions, c'est sûr que l'équipe de hockey n'est pas en haut de la liste des priorités du CISO, de la ville de Gatineau et des autres intervenants, parce que je veux dire, il y a tellement de choses auxquelles on doit penser. Ceci dit, on aurait pu éviter tout cela. On a un compromis. Écoute, et peut-être.
Mais en tout cas, on est en mode solution. On est en mode solution.
Et il n'est pas impossible que si on n'avait pas créé cette crise politique, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé cette solution rapidement, comme peut-être que Gilles Desjardins ne serait pas sorti rapidement. On ne le sait pas. Peut-être que si on a créé les conditions pour trouver cette solution rapide. Ceci étant dit, je suis content qu'on semble se diriger vers un compromis et une solution.
Norm MacMillan aussi est très heureux.
Ben oui, c'est certain. C'est certain.
On le souhaite. Ça veut dire quoi, ça, la loterie scolaire?
Écoute, c'est fascinant. À toutes les années, c'est un peu comme ça. Il y a le gouvernement qui va faire des annonces, des investissements en infrastructure scolaire. Et le droit rapporte, le collègue Daniel Leblanc ce matin, le rapporte la liste d'épiceries de dizaines de millions de dollars pour des écoles en Outaouais. On demande une nouvelle école primaire par le Centre de service scolaire des Draveurs, donc une école de 400 places dans le quartier Bellevue-Nord. On demande du côté de Portage de l'Outaouais deux nouvelles écoles secondaires qui sont commencées, mais on demande aussi l'érection de deux nouvelles écoles primaires. On parle dans le quartier du Plateau, une autre à Chelsea. Tu continues, la liste est longue.
Et la facture est longue aussi.
Mais sauf que la facture est limitée. En fait, le budget est limité. Alors, tu regardes la liste de demandes qui sont faites, le nombre de besoins, les classes, les agrandissements, les nouvelles écoles à cause de la croissance de la population. Et tu sais que ça sera pas comblé en entier. Alors, c'est pour ça que je parle de loterie scolaire. On a, évidemment, on a tous ces centres de services scolaires qui ont ces besoins, qui ont été identifiés. Et là, il y a une loterie. Il y a une loterie. Évidemment, ils ont tous acheté leurs billets et ils attendent les réponses pour voir qui va pouvoir obtenir sa nouvelle école, sa nouvelle classe, ses agrandissements.
On va y aller en priorité, j'imagine. Il doit y avoir une liste de priorités.
Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que la liste de priorités est identifiée comment? Qui choisit que telle école est plus prioritaire que l'autre, alors que les besoins démographiques devraient être ce qui mène les décisions? Or, c'est pas toujours clair que c'est comme ça que c'est fait. Et à cause des budgets limités, ben, on peut pas saupoudrer également partout dans les différents des différents secteurs scolaires. On ne peut pas mettre l'argent égal parce que sinon, on se ramasserait avec des bouts de chandelle, hein, une classe là, alors que peut-être que les besoins sont plus grands. Ça démontre à quel point il y a du retard dans le système de l'éducation au niveau des infrastructures, ce qui amène des situations souvent invraisemblables où des élèves doivent être déplacés dans une école qui est très loin de chez eux, ou encore des établissements qui doivent faire appel à des modules, hein, des containers, appelons-les comme ça, pour pouvoir avoir des locaux suffisants pour faire que leurs élèves aient des endroits pour étudier. C'est fascinant de voir tout ça, et souvent, Daniel, on fait ces annonces-là, et la construction se termine, l'agrandissement est terminé, on inaugure, et on a déjà en tête le fait que dans 2-3 ans, ça va déjà être trop petit.
Ben voilà, c'est ça. En terminant, le vaccin Poutine, c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez Paul Patate, là.
Non, c'est pas chez Paul Patate, ça c'est certain. Écoute, c'est fascinant de voir ça des fois sur la scène internationale, comment les rebondissements politiques sont farfelus. Et bon, Vladimir Poutine qui a annoncé il y a 2 jours qu'il y avait la Russie avait découvert un vaccin pour la COVID-19.
Sa fille qui était pratiquement un cobaye, tu sais.
Ben c'est ça, sa fille a été un cobaye, ce qui est déjà absolument burlesque. Et là, ben quelques jours plus tard, le président des Philippines, Rodrigo Duterte, qui dit: mais moi, j'ai confiance dans les Russes, je vais me porter cobaye, je vais me faire inoculer le vaccin. Là, il y a quelqu'un qui est allé voir Rodrigo, il a dit: Rodrigo, mon ami, peut-être pas une bonne idée là de se faire vacciner par les Russes. Fait que là, il a changé d'idée. Alors, écoute, c'est comme un mauvais film d'intrigue politique internationale.
Et Trump,
avec
qu'est-ce
le vaccin
qu'il dit là-dedans?
À Poutine.
Il a-tu confiance à ça, lui?
Écoute, j'aimerais ça l'entendre parler de ça. J'ai pas. Mais évidemment, lui, Trump est occupé là présentement avec avec sa nouvelle ennemie numéro 1, Kamala Harris. T'en parlais tout à l'heure avec Olivier. Ça va être fascinant de regarder ça. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres chats à fouetter que le vaccin russe, mais on sait que Donald Trump a toujours admiré Vladimir Poutine. C'est pas étonnant qu'il y ait une entente éventuellement où Donald Trump dit: nous avons maintenant un vaccin grâce à notre collaboration avec nos bons amis russes. Pas le genre de choses qu'on aura entendu du temps de Ronald Reagan.
Non, ça aurait été quand même différent. Hey, Carl, on va se parler demain pour la dernière de la semaine, la dernière ensemble,
ben oui,
parce que Michel revient à compter de lundi.
Ben à demain, j'ai hâte de voir ça.